11h midi, le meilleur de Sud Radio. Trina McDean.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le meilleur de Sud Radio. On va passer cette prochaine heure ensemble et comme tous les week-ends, je vous ai sélectionné tous les moments forts de cette semaine. Et on commence tout de suite avec votre imitateur préféré, Dany Moreau. Vendredi, il a piraté l'info avec humour en imitant Emmanuel Macron, Jean-Pierre Bacri ou encore Gérard Depardieu. Et comme d'habitude, c'était très drôle, écoutez.
Le meilleur de Sud Radio. Sud Radio, Dany Moreau. Pirate l'info.
Et Emmanuel Macron, cette semaine, vous étiez, je crois, avec Guillaume Canet et vous étiez fan de ses films.
Et oui, j'étais en Chine. Tu l'as dit, oui.
Ah oui,
Guillaume Canet a inspiré toute ma politique. Et avec moi, les Français n'ont pas fini de sortir les petits mouchoirs.
Oui.
D'ailleurs, je vous prépare le remake pour 2022. Ce sera carrément le rouleau de Sopalin.
Oui, c'est ça. Oui.
Ça va chialer grave. Mais pour une fois, je soutiens les Gaulois réfractaires, car comme Guillaume va réaliser Astérix en Chine, les Chinois vont bien l'avoir dans le baba au rhum.
Mais dites donc, bah, Jean-Pierre Bacri, justement, ouais. Ça doit vous énerver que Guillaume Canet soit le chouchou du président.
Moi, ça m'énerve, là. Surtout parce qu'avec mon caractère de cochon, là, j'aurais pu largement jouer un sanglier bougon dans Astérix, là. Ouais. Bon, mais vu que dans l'astrologie chinoise, je suis du signe du lapin, là, je passe pour une chèvre. Fais chier.
Et vous, Gérard Depardieu, ouais. Vous êtes aussi en colère?
Oh, mais oui, merde. Mais même, je suis pote avec Guillaume Canet, hein. Oh, mais j'ai les glandes. Qui a refilé le rôle d'Obélix à Gilles Lelouch? Gilles Lelouch, merde, il a pas la carrure. Avec ses 40 kilos de tout mouillé, quitte ouais. à prendre une barrique à Vinay, fallait choisir son frère, Philippe, merde, hein. En plus, moi, j'ai déjà mon passeport chinois. Je suis le chouchou des dictateurs, merde.
Et vous êtes donc prêt à tout pour garder le rôle, vous?
Mais oui, Cécile, si pour décrocher le contrat, faut faire comme Macron et refiler une bouteille de pinard à Xi Jinping, file-moi une boutanche, hein. Je pisse dedans. Dans mes urines, c'est du grand cru millésimé avec un goût de banane. Allez, chin-chin, comme dirait Benjamin Sanglacé.
Merci beaucoup. On a appris que le patron de McDonald's avait été licencié à cause d'une liaison avec une employée. Cyril Lignac, une réaction peut-être?
Effectivement, Maïté, ça se passe comme ça chez McDonald's. No job in job. Sinon, c'est le chef qui passe à la casserole. Ça, c'est tout le problème de la malbouffe à l'américaine. Alors qu'en France, tout le monde amène sa gamelle au travail, il n'y a jamais eu d'embrouille. Je sais que même ici à Sud Radio, il arrive qu'on avale vite fait une saucisse purée sur un coin du bureau.
Il faudra balancer des noms. Alors Cyril, quels sont vos consignes à respecter?
Ah si, je vous rappelle les règles du bien manger en entreprise. On peut amener son casse-croûte, sauf si le tupperware s'appelle Nadine.
Ah.
Et même si elle est craquante et appétissante. De plus, pour les gros gourmands fans de hamburgers, je vous rappelle qu'il est interdit de prendre sa secrétaire en sandwich dans l'ascenseur, même avec un bout de salade entre les dents. Hein. Et comme on dit chez McDo, venez comme vous êtes, mais si vous avez la frite, surtout, ne la sortez pas. Quick, le gars, évidemment. Quick.
La privatisation de la Française des Jeux a démarré hier et Bruno Le Maire, vous allez inciter les Français à investir, bien sûr.
Eh bien oui, la poudre de perlimpinpin continue. Avec notre nouvelle attrape Gogo Banco, nous allons jouer avec votre argent en vidant les poches des épargnants et les petites bourses comme Patrick Roger.
D'abord.
Attention mesdames et messieurs, offre exceptionnelle, des actions à 2 balles à saisir tout de suite maintenant. Si en plus vous m'achetez 10 actions, je vous offre une action Eurotunnel Collector et un poster dédicacé de Darmanin en train de se torcher avec une feuille d'impôt.
Eh ben dis donc, ça fait rêver. Vous êtes donc prêt à tout rafler pour 1 milliard?
Oui, pour cela nous allons aussi installer des machines à sous dans tous les bistrots, des roulettes russes dans les commissariats, ainsi que des tables de jeu à la CAF et aux acédiques. Attention les smicards, faites vos jeux, rien ne va plus. C'est le moment de jouer votre indemnité. De toute façon, les dés sont pipés.
Ah ouais, d'accord. Et de votre côté, monsieur Balkany, vous avez peur de la disparition des casinos à l'ancienne, je crois.
Bah oui, écoutez, en tant que bandit manchot des Hauts-de-Seine, moi je défends l'escroc de proximité.
Ouais.
Alors j'ai installé un petit casino à la prison de la santé pour blanchir quelques bifetons qui me restaient dans le peignoir. Avec Isabelle, on a même lancé une cagnotte pour que les pigeons de Levallois payent ma caution.
Ah oui.
C'est faut dire si je suis pas prêt d'aller au tapis.
Ça,
hein.
C'est sûr. Dites-moi, Patrick Bruel, vous avez acheté des actions FDJ, vous?
Mais faut arrêter, ceci, les actions FDJ, sont encore une histoire à se retrouver en slip, putain. Moi je reste fidèle au strip poker. Mais alors du coup, comment on fait si on a une bonne paire, Cécile? On s'allonge direct ou c'est l'État qui nous pompe?
Je vous laisse répondre à cette question tout seul. Et on enchaîne avec les Brave King News de Nikos.
Oui, bonjour à tous, salut, c'est Nikos. Vous avez vu, la filière bois était à l'honneur cette semaine, puisque Jean-Paul Dubois est monté sur les planches du Goncourt et Marie Laforêt a rejoint la boîte à sapins. Hommage. Cette semaine, Édouard Philippe a lancé le chantier du village olympique en Seine-Saint-Denis. C'est une bonne nouvelle pour le commerce local. Au moins dans le 9-3, on est sûr que les athlètes seront tous positifs au cannabis.
Et demain, samedi, nous célébrons le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Monsieur Wauquiez, vous, le mur, ça vous évoque quel souvenir personnel, par exemple?
Vous savez, madame de Trachibus, moi, j'ai tenté plusieurs fois de faire le mur pour allier discrètement le Rassemblement National.
Ouais.
J'ai même creusé un tunnel avec Thierry Mariani, mais à chaque fois, je me suis fait choper au checkpoint électoral à cause de ma vieille parka rouge de la RDA qui était visible de loin.
Ouais, c'est vrai.
Le point positif, c'est que depuis mon départ, les Républicains vont dans le mur à chaque élection.
Ouais. Et tiens, Philippe Bilger, pendant que vous êtes là, vous êtes nostalgique, vous, du mur de Merlin?
Bonjour, Titi. Non, moi, j'étais plutôt en tête de gondole sur le mur des cons. Ouais. Me suis fait épingler par les magistrats qui se payaient ma tronche. Fort heureusement, aujourd'hui, j'ai uniquement ma photo sur le mur des cons, des complotistes, à côté d'André Bercoff, dans les toilettes de Sud Radio.
Et on a marre.
Attendez.
Je pose juste une question. Est-ce que Mamoudou Gassama est venu décrocher Gorbatchev qui était suspendu au mur de Berlin? Hein? Il en a marre, voilà.
Il est fou.
Godin Dossor est fan de pute.
Ah, hein? Monsieur Godin, vous vouliez réagir. Ben
mais
voilà.
Madame de Minibus, oui, on nous rabat les oreilles avec anniversaire des 30 ans du mur de Berlin. Oui. Mais moi, à Marseille, j'ai connu l'écroulement du mur de la rue d'Aubagne. Et contrairement aux Allemands, on n'a pas eu besoin d'utiliser des pioches. Il est tombé tout seul, et moi avec, dans les sondages.
Hein? Merci, monsieur Godin. Nadine Morano, ça vous parle le bloc de l'Est, vous?
Bah tu m'étonnes, ich bin ein Berliner. Moi, c'est pour faire de la politique à Paris que j'ai dû franchir le mur de l'Est. Bah oui, réfléchis, je suis né à Nancy.
Ouais, d'accord, ok, merci.
Merci tu beaucoup. Tu vas pas venir, ça l'a arrangé.
Non, celle-là. Et François Hollande, 1989, oui. Ça vous rappelle aussi des souvenirs?
Oui, bonjour à tous. Oui, moi, l'époque soviétique, ça me rappelle le temps où je fusais le mur pour aller voir des gonzesses alors que Ségolène avait baissé le rideau de fer.
Oui, effectivement, oui, ça.
Alors, je le dis à toutes les femmes qui nous écoutent, si jamais c'est la guerre froide dans votre couple, je vous en conjure, madame, faites le mur, pas la guerre.
Oh, c'est beau, merci.
Le meilleur de Sud Radio.
Dany Moreau qui pirate l'info tous les vendredis à 8h20 dans le Grand Matin. Sud Radio avec Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite du meilleur de Sud Radio avec vos séquences préférées. Curieux comme Rémi qui vous donne les secrets de la longévité. 5 questions pour tout savoir avec l'invité Bernard Thomasson, l'acteur et producteur Patrick Braoudé et vos humoristes préférés du Grand Matin Sud Radio.
11h midi, le meilleur de Sud Radio. Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. Si vous n'avez pas pu nous écouter cette semaine, pas de panique. Je vous ai préparé une sélection des moments les plus marquants de nos émissions. D'ailleurs, si vous avez loupé la séquence 5 questions pour tout savoir de vendredi, je vous propose de la réécouter tout de suite. Cécile de Ménibus recevait Bernard Thomasson, auteur du livre Mont Berlin, à l'occasion du 30e anniversaire de la chute du mur.
Le meilleur de Sud Radio.
Et ce matin, c'est avec Bernard Thomasson que nous sommes. Bonjour Bernard,
bonjour,
merci d'être avec nous. Vous êtes romancier et journaliste et vous avez sorti ce livre aux éditions MM2M qui s'appelle Mont Berlin. Donc effectivement, c'est votre Berlin, c'est votre histoire, c'est la culture, c'est la gastronomie, c'est l'art, c'est plein de choses, c'est la liberté.
Déambulation amoureuse.
Exactement. C'est vraiment une déclaration d'amour que vous lancez à Berlin, que vous découvrez lors d'un été linguistique à l'âge de 15 ans et vous ne l'avez plus jamais quitté.
Absolument. À 15 ans, j'arrive dans cette ville qui est à la fois d'un côté partagée, enfin emmurée, enfermée dans un mur pour moitié, et de l'autre moitié enfermée dans une idéologie. Et quand vous sortez de votre province
oui,
natale...
Oui, rappelons que c'est en pleine guerre froide. Hein, quand
ah
même,
oui, bien sûr, c'est dans les années 70, donc il y a le mur, il y a la guerre froide, les deux blocs. Et moi, je débarque dans cette ville, c'est un choc par rapport au mur, par rapport aux gens qui sont empêchés les uns les autres de se rencontrer. En plus, je vais vivre chez des gens communistes qui vivent à Berlin-Ouest, donc une situation très particulière.
Étonnant.
Mon ami Klaus m'a raconté par la suite que le jour où le mur a été érigé en 61, il était postier à Kreuzberg et son bureau, d'un seul coup, ses collègues avaient mis du barbelé sur son bureau, lui ont dit « Maintenant, tu dégages. Tes amis ont construit un mur, tu vas de l'autre côté et tu t'es viré. » Tous les communistes de Berlin-Ouest ont été virés de leur poste. Ouais. La plupart sont partis à Berlin-Est. Lui a voulu rester à Kreuzberg, c'est son quartier natal et c'est là où il s'est il a transformé son métier. Il est devenu batelier puisque la RDA gérait les des voies navigables et donc il est devenu salarié de la RDA, mais côté ouest. C'était assez particulier et moi j'ai passé tous mes étés d'adolescence et de jeune adulte là-bas.
Alors c'est un marqueur fort puisque là demain ce sera commémoré le 9 novembre les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Marqueur fort parce que le 9 novembre en fait on se rend compte dans votre livre que finalement l'histoire se répète, c'est-à-dire que c'est de la violence à la libération finale.
C'est une date très marquante pour l'Allemagne, en particulier pour Berlin. 9 novembre 18, c'est la révolution, la République est déclarée de deux manières.
La chute de l'Empire,
ça, 9 novembre 18. D'un côté, avec Karl Liebknecht qui déclare la République socialiste, et de l'autre côté, Schedemann qui déclare la République d'Allemagne. Donc c'est la gauche modérée contre la gauche radicale, et en fait c'est la gauche modérée qui l'aura emporté finalement, parce que Liebknecht aurait été assassiné quelques semaines plus tard. Ensuite, en 23, le 9 novembre, c'est
un
petit caporal qui fait son putsch. Alors ça a démarré le 9 au soir, et ça s'est prolongé le 10.
Hitler, bien
évidemment, donc ce qui a marqué l'histoire de la manière qu'on sait, c'était à Munich. Le 9 novembre 1938, la nuit de cristal, là aussi événement tragique pour Berlin et pour l'Allemagne en général. Et puis le 9 novembre 89, le retour en quelque sorte à la liberté. Et d'ailleurs, quand vous regardez la page internet de Berlin, quand vous y allez sur le site de l'Office de tourisme de Berlin, la première phrase c'est Berlin, ville de la liberté. C'est-à-dire qu'on met en avant ce côté liberté après avoir été pendant des décennies une ville privé de liberté, enfermé dans des murs, dans des carcans, dans des idéologies, le nazisme, etc.
Alors aujourd'hui, c'est une Allemagne et un Berlin réunifiés. Il reste quand même une partie de la population, les ex-Allemands de l'Est, qui sont marqués forcément par une histoire d'un pays qui n'existe plus. Et ça en dit long sur cette perte d'identité.
C'est un drame pour eux, parce que du jour au lendemain, on leur a retirer toutes leurs racines, tout ce qu'on leur avait appris dans leur jeunesse, dans leur éducation, a disparu complètement. Leurs références, donc on n'a plus de références, imaginez-vous, tout ce que vous avez appris quand vous étiez enfant, disparaît d'un seul coup et on vous impose autre chose. Et on vous impose autre chose aussi dans votre vie quotidienne, le capitalisme qui vous marque au fer rouge, parce que, évidemment, il y avait la Stasi sous la RDA, évidemment, il y avait des privations de liberté, on ne pouvait pas voyager, s'exprimer, mais en même temps, c'était un esprit de solidarité. Les gens étaient très solidaires entre eux.
Il y avait de l'emploi.
Il y avait du plein emploi, il y avait des crèches gratuites pour tout le monde, les loyers étaient faibles. Et du jour au lendemain, ils sont retrouvés absorbés par un pays capitalistique qui leur a imposé évidemment le chômage, des prix qui ont augmenté, des loyers qui ont augmenté. Donc pour eux, c'était un drame. Ils ont à la fois perdu leurs racines et leur pays, leur identité, et se sont retrouvés absorbés par un autre pays dans lequel ils ne se reconnaissaient pas.
Vous dites que tout de suite, c'était la liberté, mais ils ont mis 15 ans finalement à s'en remettre, à rentrer dans un processus.
Je crois que c'est même plus que 15 ans, parce que même aujourd'hui, vous allez du côté de l'Est, Nicolas Offenstadt le montre très bien avec son dernier livre qui est magnifique.
On sent toujours qu'il y a une scission entre les deux.
Il y a une scission parce qu'il y a un abandon économique de l'Allemagne de l'Est, avec des friches industrielles qui sont à l'abandon, avec
de la culture populaire qui reste encore
qui est très marquée. Il y a beaucoup de centres culturels du côté Est, c'est vrai, mais l'économie a été surtout mise du côté Ouest, et donc il y a une vraie différence aujourd'hui encore. Même les gens de l'Est, quand il y a une augmentation des retraites, il y en a une en début d'année, elle était plus forte à l'Est pour essayer de compenser encore un petit peu.
Pour les gens qui vont aller à Berlin, qui veulent y aller, vous avez un petit conseil à leur donner?
Et effectivement, je raconte tous les endroits où j'aime aller, où j'ai aimé aller, où j'ai découvert des choses. Moi, je crois qu'il faut y aller au printemps.
On vous a initié.
Il faut y aller au printemps.
Oui, parce que l'été, il fait très chaud. C'est un climat continental. Le printemps, les tilleuls sentent, embaument partout. Le tilleul, c'est l'arbre de Berlin. C'est magnifique.
Il y a les rivières, en fait.
Il y a les rivières, il y a les canaux. Donc, le printemps, on profite déjà de la nature. D'ailleurs, Berlin vient de là. C'est Breleu en slave, ça veut dire marécage. Marécage.
C'est vrai.
Berlin, c'est la
Et en fait, vous lirez dans ce livre ce vent de liberté sur plein de sujets. C'est assez incroyable.
Le meilleur de Sud Radio.
Une question pour tout savoir, c'est chaque jour à 9h50 dans le Grand Matin Sud Radio. Allez, on continue avec la rubrique Curieux comme Rémi du Grand Matin Sud Radio. Je dis Rémi André vous expliquer en quoi la course à pied est bénéfique pour la santé. On l'écoute.
Le meilleur de Sud Radio.
Et bonjour Rémi André.
Bonjour Arthur.
Courir est bénéfique à la longévité. De nouvelles recherches internationales montrent en effet que la course à pied permet d'abaisser le risque de mortalité. Rémi, êtes-vous vous-même un adepte de la course à pied?
Ah, vous savez, quand je vous vois si jeune et si beau, ça me rappelle le temps où, comme vous, je courais régulièrement. Bon, le temps a passé, maintenant j'y mets un peu moins d'enthousiasme. Et pourtant, il n'y a pas d'âge pour courir. Sport individuel ou en groupe, la course à pied est à la portée de presque tous. Selon de nouvelles recherches menées par des chercheurs d'Australie, de Thaïlande, d'Autriche et de Finlande, courir une fois par semaine serait bénéfique pour la santé et permettrait de réduire donc le risque de mortalité.
Et je vois que vous êtes prudent, vous ne parlez pas d'immortalité, mais de réduction de la mortalité.
Oui, ce n'est pas de la prudence. Nous sommes bien des mortels sur cette terre, mais finalement, on n'est pas pressé de mourir. Et c'est justement ce qu'ont analysé ces chercheurs. Ils ont passé en revue 14 études préexistantes concernant la santé de 232 149 personnes, oui, c'est très précis, suivies entre 5,5 et 35 années. Les chercheurs ont analysé les données pour voir s'il existait une association entre la course et le risque de décès, toutes causes confondues, de maladies cardiovasculaires et de cancer.
Sans être curieux, Rémi, quelles sont leurs conclusions ?
Bien, leurs résultats, repris en ligne par le British Journal du Sport de la Médecine, ont montré que la course à pied semblait abaisser de 27% le risque de mortalité, toutes causes confondues, chez l'homme et la femme, en comparaison avec les sujets qui ne couraient jamais. De plus, n'importe quelle quantité de course était associée à un risque abaissé de 30% de maladies cardiovasculaires et faisait aussi reculer de 23% le risque de décès des suites d'un cancer. La plus petite quantité de course, en fait, hein, évaluée dans l'étude, à moins de 50 minutes par semaine, à une cadence de moins de 8 km par heure, était associée à un abaissement significatif du risque de décès, toutes causes confondues.
Bon, si j'ai bien compris, il me suffit de courir une heure par semaine.
En effet, selon leurs analyses, leurs coureurs invétérés ne récoltent pas forcément des bénéfices supérieurs à courir plus. Le plan de la mortalité, ceux qui courent moins d'une heure par semaine ont les mêmes bénéfices que ceux qui le font plus de trois heures par semaine. Alors courir plus longtemps n'est donc pas un gage de longévité. En revanche, le fait de persévérer dans cette pratique sportive a un effet. Pratiquer pendant 6 ans donne des bénéfices plus significatifs avec, par exemple, une réduction de 50% des risques de décès pour cause cardiaque ou d'AVC.
Alors on s'y met dès demain, Rémi.
Il est temps de commencer, effectivement, et surtout de persévérer, vous l'avez entendu, mais il faudrait tous s'y mettre, car courir, peu importe la durée ou la fréquence, est meilleur pour la santé que de ne pas courir du tout, et que ce sport peut améliorer la santé et la longévité de la population. Alors pour l'auteur principal de l'article, ceci devrait encourager des personnes sédentaires en bonne santé à se mettre à ce sport. Le manque de temps ne devrait pas y être une barrière, en effet, puisque courir 5 à 10 minutes par jour à moins de 10 km par heure suffirait pour réduire notre risque de décès.
Le meilleur de Sud Radio.
Curieux comme Rémi, avec Rémi André, c'est tous les jours à 6h10 dans le Grand Matin, Sud Radio. Patrick Roger et Cécile de Minibus que vous retrouverez dès lundi à 6h. Allez, on va se retrouver dans un très court instant pour la suite du meilleur de Sud Radio avec l'influenceur Christophe Gatineau, l'acteur et producteur Patrick Braoudet et l'humoriste Sarah Cadour, qui a réussi à se faire passer pour la police judiciaire pour réquisitionner un appartement pour une planque. Restez avec nous.
11h midi, le meilleur de Sud Radio. Trina McDean.
Merci d'être à l'écoute de Sud Radio. Comme tous les week-ends, on revient ensemble sur les meilleurs moments de la semaine. Et avant de poursuivre, je vous propose un peu de musique. On va écouter un titre de deux chanteurs dont le succès n'est plus à prouver. Un titre dont le clip tourné dans une rame de métro à Lyon cumule déjà plus de 19 millions de vues sur YouTube. Voici Maître Gims et Sting avec Reste.
Apparaît dans ma vie comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait eh, eh, eh. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait ré, ré, ré. Si jamais tu partais.
Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fell beyond my glances. But every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais.
Flower in the desert.
desert of my heart until it withers in the sunlight. But as the hours pass, I pray for her returning to me, a lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight.
Mais tu iras où si jamais je m'en vais? Ça me rendrait si jamais tu partais. Mais tu iras où si jamais je m'en vais? Ça me rendrait si jamais tu partais. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où tu ne me vois pas? C'est où mais je suis et là. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est posée sur ma poitrine, j'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où? Si jamais je m'en vais, ça me rendrait si jamais tu partais. Mais tu iras où si jamais je m'en vais? Ça me rendrait si jamais tu partais. Mais tu iras où
si jamais je m'en vais?
Ça me rendrait mais tu iras où
si jamais je m'en vais?
Ça me rendrait.
Le meilleur de Sud Radio.
C'était Maître Gims et Sting dans Le meilleur de Sud Radio avec Rest, extrait de l'album Transcendance de Gims sorti en avril 2019. Allez, on poursuit avec la chronique influenceur et Christophe Gatineau, auteur du blog Le Jardin Vivant. Il était dans Le Grand Matin Sud Radio aux côtés de Patrick Roger et Cécile de Minibus mercredi. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Et nous sommes ce matin avec Christophe Gatineau autour du blog Le Jardin Vivant. Vous êtes agronome, cultivateur et auteur de Quand les abeilles ont le bourdon au Éloge du ver de terre aux éditions Flammarion. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Et ce soir, vous allez participer à une conférence à la recyclerie dans le 18e arrondissement à Paris sur le thème de notre rapport à la nature. Et vous dites que nous ne sommes pas assez conscients de la nature qui nous entoure.
Bien évidemment. Enfin, je dirais que ce soir, je vais intervenir. En fait, on va s'interroger surtout sur l'alimentation de demain, finalement, hein, parce que on est tous un petit peu inquiets. Hein, c'est-à-dire, est-ce qu'on va vers une alimentation plus bio, oui, plus pesticidée, quelles sont les capacités de nos sols, de la nature, en fin de compte, à faire appel à ces services, hein, parce que je crois que dans ce rapport à la nature, au-delà des petits oiseaux et du renard qui est mignon, je veux dire, tous ces êtres-là peuvent nous rendre des services. Et surtout, dernièrement, j'ai écrit et j'ai argumenté un article, plus de renards, par exemple, la protection du renard en France nous permettrait de diminuer notre consommation de pesticides.
Alors, c'est-à-dire
ben, c'est-à-dire que...
De quelle manière?
De quelle manière? Très simplement, hein, finalement. Hein. C'est-à-dire que le renard appartient à une communauté de prédateurs qui régule les populations de rongeurs. Les populations de rongeurs, ça va du lapin, mais c'est surtout tout ce qui est mulot. Et aujourd'hui, ces mulots, ces campagnols, en fin de compte, font des dégâts considérables, en fait, dans les cultures. Il faut quand même savoir qu'un campagnol terrestre peut manger jusqu'à 50 à 100% de son poids par jour, ce qui représente 50 kilos de nourriture par an, hein, finalement.
Ah oui, ah oui, effectivement. Voilà. Mais ce qui est dommage, Christophe Gatineau, c'est que finalement, le renard est considéré comme un nuisible aujourd'hui en plus.
Oui, en fin de compte, il est victime des préjugés, tout simplement, en fait. Hein. Ça repose sur rien. Aujourd'hui, on a des études, on a des chiffres, on a des données, hein, des données qui montrent que le régime alimentaire d'un renard est composé à 80% de ces petits animaux, en fait. Et ces petits animaux ont un taux de reproduction si élevé, hein, c'est-à-dire qu'un couple peut donner 100 individus par an. Donc, on est vraiment...
Sur une prolifération colossale, hein.
Ah bah oui, une prolifération colossale. Et aujourd'hui, les agriculteurs, là où il manque du renard, là où il manque des prédateurs, c'est-à-dire quand on parle d'une communauté de prédateurs, prédateur. Ça part, le renard est un symbole de la même manière que l'abeille est un symbole au niveau des pollinisateurs, de la même manière que le ver de terre est un symbole au niveau de la vie du sol. Donc ce que je veux dire, c'est que moins il y a de renards, bah, plus l'agriculteur est obligé aujourd'hui d'utiliser des pesticides, des suicides en fin de compte, où involontairement, il n'a pas forcément d'autre choix, il va empoisonner toute la chaîne alimentaire, parce qu'il est obligé de réguler ses rongeurs au risque de perdre ses récoltes.
Mais rapidement, est-ce que ça veut dire qu'il faut réorganiser la nature, Christophe Gatineau ?
Il faut revoir notre rapport à la nature. De toute façon, moins de nature, moins nous collaborons avec la nature, plus nous sommes obligés de faire appel aux pesticides. Donc, on n'a pas d'autre solution. Mon travail, c'est de mettre cela en évidence, c'est d'apporter d'abord un point de vue. Je suis un pur produit du monde rural, hein, donc j'apporte vraiment un point de vue de la campagne. Et c'est vrai qu'autrefois, la campagne, bah, c'était symbolisé par le monde agricole. Mais vous savez, sur ma commune, aujourd'hui, c'est une très grande commune, elle est étendue, elle est aussi étendue que Bordeaux, elle est seulement deux fois plus petite que Paris. Mais par contre, nous avons autant d'âmes qui vivent. Et ces âmes, ce sont des arbres, ce sont les animaux, etc. Et moi, je témoigne que ce monde-là, si on collabore avec eux, bien évidemment, on va pouvoir diminuer notre impact de la Chine.
Le meilleur de Sud Radio.
Et la chronique des influenceurs, c'est tous les jours à 6h50 dans le Grand Matin, Sud Radio. On va maintenant passer à votre séquence 5 questions pour tout savoir. Mercredi, Patrick Roger et Cécile de Minibus recevaient Patrick Braoudé, acteur, producteur et scénariste à l'affiche de la pièce Père ou Fils, en ce moment au Théâtre de la Renaissance à Paris. On écoute.
Le meilleur de Sud Radio.
Et ce matin, nous sommes avec Patrick Braoudé. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes acteur, réalisateur, scénariste et producteur français et à l'affiche pour un spectacle qui s'appelle Père ou Fils, la nouvelle comédie de Clément Michel au Théâtre de la Renaissance. C'est dans le 10e arrondissement à Paris. C'est du mardi au samedi à 21h dans les matinées, le samedi et les dimanches à 16h30. Dites donc, ça vous fait du boulot ça, hein ?
Oui, mais c'est ça, le plaisir du théâtre aussi, c'est d'aller à la rencontre du public tous les jours. Et puis, vous savez, c'est vraiment une alchimie entre le public et les acteurs. Tous les soirs, c'est des choses différentes. Tout d'un coup, on va.
Mais c'est ce que disent les acteurs de cinéma qui passent au théâtre et au cinéma. Ils disent au moins, on a l'intérêt, on a la réflexion ou le retour immédiat. Et ça, c'est intéressant.
Oui, bien sûr, c'est formidable, surtout avec une pièce comique, quand les gens rient énormément. Vous savez, en plus, c'est la comédie, c'est quelque chose de très technique. Donc on sait, on doit balancer une phrase, balancer un gag, tout d'un coup, il doit tomber pile dans le bon tempo pour faire rire. Donc tout d'un coup, le soir, tac, on a les rires, on est content de notre travail, on est content de cet échange avec les gens.
C'est vrai que si la vanne est mal dite, et ben forcément, parfois, elle peut ne pas faire rire.
Oui, et on voit ça tout de suite au théâtre, entre la veille, tout d'un coup, ça fait hurler de rire, et là, tac, on l'a dit un peu moins bien, ça fait un peu moins rire, on n'est pas content, donc on se dit le lendemain, je la sortirai mieux, je ferai mieux mon travail, et c'est ça qui est plaisant au théâtre.
En tout cas, vous êtes connu pour rire, vous êtes connu aussi pour faire des sujets, en tout cas, qui flirtent avec des sujets d'actualité, de société. Le divorce, la fécondation in vitro, le désir, la sexualité, les rapports hommes-femmes. Et ce matin, on en est, puisque cette pièce s'appelle Père ou Fils, des relations justement, père et fils, qui ne sont pas toujours faciles. Et le pitch finalement, c'est cette rencontre d'un père et d'un fils qui se détestent.
Ouais, c'est vraiment une relation conflictuelle entre un père et un fils. Un père, donc, que j'interprète à certains moments.
Oui, c'est ça la complexité
de la pièce, qui est un homme politique en pleine campagne électorale. Ouais. Qui a une interview prévue extrêmement importante, puisque dans 8 jours, il y a
les
législatives, et il découvre que son fils, qui est peintre, va balancer un portrait de lui dans une galerie.
Pas très flatteur,
il veut savoir ce que c'est. et d'où le conflit déjà entre le père et le fils, qui est assez sérieux, va être augmenté par cette rencontre entre le père et le fils, où le père... s'engueulant avec le fils, va lui dire si tu veux, on change de place, si tu n'es pas content de ta vie, etc. Et ils vont changer de place. Il a dit la phrase qu'il ne fallait pas, le lendemain, le destin leur joue un tour et ils changent de place l'un et l'autre.
Et ce qui est assez génial, puisque vous devenez. C'est assez compliqué à expliquer, mais en tout cas à voir, c'est génial, parce que finalement, vous endossez le rôle de votre fils en revenant parfois le père, qui lui.
Je joue plus souvent dans la pièce le rôle de celui de 35 ans, et Arthur Juniau joue celui de 65. Le plus souvent, finalement, voilà, parce qu'on est dans le corps de l'autre, donc on a à gérer les problèmes de l'autre. le fils a à gérer les problèmes du père dans le corps du père.
Et ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est que bien sûr c'est une pièce très comique, mais dans le comique, finalement, on parle beaucoup des relations père-fils, oui.
Oui, oui.
Et finalement, on se rend compte qu'on ne connaît pas si bien ses enfants que ça.
Non, on peut être absolument, parce que les enfants sont des individus à part entière, ils font leur choix, ils prennent leur vie en main, et puis tout d'un coup, on peut découvrir qu'ils font des choses qu'on n'aurait peut-être pas voulu qu'ils fassent.
Oui, qu'on ne leur avait pas inculqué. Ouais. Alors vous avez deux pères, vous avez deux fils dans la vraie vie, je m'y perds, justement.
Je m'y perds ou fils.
Oui, c'est ça. Père, moi aussi, vous êtes une mère juive, en fait, avec vos enfants.
Oui, on peut dire ça.
C'est-à-dire que vous les connaissez bien, vous les choyez, vous les appelez tout le temps, ils vous appellent tout le temps, ils vous montrent tout. Enfin, c'est vraiment une relation qui est totalement à l'opposé de celle que vous jouez aujourd'hui au théâtre.
Oui, mais moi, quand j'ai eu mes enfants, j'ai voulu être proche d'eux. C'est vrai que on fait des métiers dans le cinéma ou le théâtre où c'est très dangereux parce qu'on peut partir longtemps et quand on fait un film, on part tôt, on peut ne pas...
Et laisser filer le temps.
Ouais. Et moi, quand je faisais mes films, je faisais toujours attention de tourner à partir d'une certaine heure pour les amener à l'école le matin.
Ah oui, c'est important.
Et après, je partais sur le tournage parce que je tenais à surtout conserver cette relation avec mes fils et que j'ai toujours maintenant.
Est-ce que sur scène, justement, ça vous aide ? Est-ce que votre vie privée peut être transposée, justement, dans cette relation avec Arthur Juniau ? Parce que, en fait, j'ai écouté certaines de vos interviews, vous disiez, c'est drôle parce que j'observais vraiment Arthur, son comportement, pour rentrer dans son personnage et rentrer dans le personnage que lui avait créé.
Oui, alors, absolument. On a joué, d'ailleurs, au moment où on a fait les répétitions, on a interverti nos rôles à certains moments. J'ai joué le rôle d'Arthur, il a joué le mien pour savoir comment lui jouerait le mien et inversement. Et est-ce que la vie... oui, je pense qu'on se sert vraiment, et bien sûr, en tant qu'acteur, on se sert de l'acquis, de l'expérience. Il y a un moment dans la pièce, à la fin de la pièce, où je retrouve mon fils et je prends sa tête dans mes mains et je lui dis « T'es beau, il est beau mon fils. » Et je lui dis ça avec beaucoup d'amour, et c'est ce qui est touchant, parce que la pièce doit être touchante sur ces relations père-fils aussi, elle n'est pas que drôle, elle est touchante. Et c'est vrai que quand je prends Arthur, le visage d'Arthur dans mes mains, j'ai la sensation d'avoir un de mes fils en face de moi quand je lui dis ça.
Le meilleur de Sud Radio.
Et 5 questions pour tout savoir revient lundi dans le Grand Matin Sud Radio. Surtout restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour la suite du meilleur de Sud Radio avec l'humoriste Sarah Cadour, qui s'est fait passer pour la police judiciaire pour réquisitionner un appartement pour une planque. A tout de suite.
11h midi, le meilleur de Sud Radio. Trina McDean.
Merci d'être avec nous pour la suite du meilleur de Sud Radio. Comme chaque week-end, on vous propose de réécouter tous les moments forts de cette semaine. Et avant de retrouver l'humoriste Sarah Cadour et son canular, je vous propose d'écouter un titre qui marche très fort en ce moment. Un duo de femmes sur les femmes, pour les femmes. Voici Joyce Jonathan et Lola Dubini avec Mon Héroïne sur Sud Radio.
Femme, être mille, se créer toutes ses nuances. Être une fille, pas facile, de vivre sa vie sous influence. Être viril, c'est oser, passer pour un garçon manqué. Être aimé, l'accepter, et ne plus jamais regretter. Et si je ne suis pas la meilleure, que pour certains j'en fais trop, je ne suis pas une erreur. Je n'y laisserai jamais ma peau. Je serai mon héroïne, pas tendre jusqu'à la fin du film. Une force qui surmonte les imbéciles de tous les contes. Je porterai mes idées sur le monde. Je serai parler des heures durant des soirées. Être sûr, être soi, jamais se laisser insulter. Être une fille, être une meuf, être plutôt trop que pas assez. Être vivante, attachante, et accepter son passé. Je ne serai toujours pas la meilleure, pour certains j'en ferai toujours trop. Je ne suis pas une erreur.
et j'y laisserai jamais ma peau. Je serai mon héroïne, battant jusqu'à la fin du film. Une force qui surmonte les imbéciles de tous les contes. Je porterai mes idées sur le monde. Qui affronte, qui n'aura plus jamais honte,
qui n'aura plus jamais honte,
une force qui surmonte.
De Sud Radio.
C'était mon héroïne dans le meilleur de Sud Radio, le duo des chanteuses Joyce Jonathan et Lola Dubini. Allez, on va terminer sur une note d'humour avec Sarah Cadour. Lundi, dans le Grand Matin Sud Radio, elle s'est fait passer pour un membre de la police judiciaire pour réquisitionner un appart pour une planque. Et comme vous allez l'entendre, c'est très drôle.
Le meilleur de Sud Radio.
Bonjour, comment
Bonjour.
Ça va?
Bah, ça va très bien, et vous?
Oui, ouais, ça, oui, va, oui, ça va, ça va.
Vous m'avez manqué.
Bah, vous aussi, vous avez manqué.
Bah, parce que vous étiez là, on vous a écouté. Hein.
Bah, c'est ça, comme d'habitude.
Faire vos blagues pourries, on le sait.
Voilà, c'est ça. Et c'est Philippe David qui vous a inspiré pour votre blague.
Ah, il,
là.
Est
non,
top.
C'est ça.
Il a une superbe
non, mais,
voix. Hein.
Oui, oui. Ouais, 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 mais il vous a inspiré, non, mais parce qu'on parle des cheveux, là, je crois.
Le problème, c'est que quand on fait un canular avec Philippe David, c'est-à-dire qu'il ne raccroche jamais, on a envie de lui dire.
Il faut avoir le temps.
Laisse-nous tranquille.
C'était moi la piégée au final.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Bon, c'est à réécouter en tout cas.
Et
en
ce podcast, matin, ouais. On parle de coupe de cheveux, effectivement, entre Philippe ouais. David et Patrick Roger, on n'est pas bien.
On a de quoi faire.
Ça va, on plaisante. Heureusement qu'on a la mèche d'Yves de Cardrel.
Ah bah oui.
C'est ça, luisante.
Et, voilà, ouais. La mèche luisante. Ouais, d'accord. Et donc, vous avez appelé un salon de coiffure.
C'est ça, et je me suis fait passer pour la gendarmerie. J'ai donc piégé une coiffeuse à qui j'ai fait croire qu'une de ses clientes avait porté plainte pour une coupe de cheveux ratée. Et je vous propose d'écouter sa réaction dans un premier temps.
Estécoiffure, bonjour.
Bonjour madame, commissariat central en ligne.
Oui.
Alors je vous appelle car on a eu une plainte d'une de vos clientes.
Je vous écoute.
Alors elle a porté plainte suite à une coupe de cheveux ratée dans votre salon.
Non mais c'est une blague de ville ça encore.
Ah non, j'aimerais beaucoup madame. Et la pauvre dame qui se retrouve à moitié chauve aussi. Maintenant allez me chercher la tondeuse que vous utilisez habituellement et branchez-la.
Alors attendez, je vais la chercher et je la branche.
Très bien.
Voilà.
Maintenant, vous l'allumez et vous allez répéter les phrases qui ont été rapportées par la plénière.
Oui, ben vous me rappelez dans une heure. J'ai du boulot là, tout à l'heure.
Oh bah dis donc.
Ah bah oui, bon, bah non, bah, c'est sûr.
Occupée, pas contente, ouais. Je la comprends.
Bah non, bah. Ouais.
Du coup, je l'ai rappelée afin qu'elle me rejoue la scène entre elle et la cliente et je lui ai fait répéter certaines phrases avec une petite dédicace pour vous, Patrick.
Ah bon?
Ouais, vous allez voir. On écoute.
Et c'est quoi faire j'écoute?
Oui, commissariat, madame.
Écoutez, j'ai 10 minutes, pas plus, alors dites-moi.
Je vous explique. La dame a enregistré vos échanges lors de son rendez-vous.
Ah, parce qu'elle est tout enregistrée en plus.
On entend clairement la voix de la coiffeuse et j'ai besoin de comparer la voix que nous avons à la vôtre afin de vous disculper ou non.
Ok.
En branchant la tondeuse afin de coller à l'enregistrement qu'on a, vous allez répéter « Je vais te faire la même coupe que Patrick Roger ».
Je vais te faire la même coupe. Je vais te faire la même coupe qu'avec Patrick Roger.
Ne bouge pas ou je te rase à blanc.
Ne bouge pas ou je te rase à blanc.
Plus d'intensité, s'il vous plaît.
Oh là là, heureusement que j'ai pas de client là. Ne bouge pas ou je te rase à blanc.
Alors à la fin, elle brandit la tondeuse. Donc vous la mettez bien au ciel. Hein, et elle dit, et que je te revois plus dans mon salon, vieille peau.
Bon, écoutez, ça devient franchement ridicule là. Hein.
Madame, c'est bientôt fini, il n'y a plus que quelques phrases et je vous laisse tranquille.
Et que je te revois plus dans mon salon, vieille peau.
Avec une tête comme la tienne, c'est chez le toiletteur que tu devrais aller.
Avec une tête comme la tienne, c'est chez le toiletteur que tu devrais aller.
Bon, c'est bon là? Attendez, je regarde.
Une cliente là qui attend, qui va arriver, qui va avoir peur là.
Ah mince, aïe, j'ai pas pu enregistrer nos échanges là, on va devoir la refaire, je suis désolée madame.
Non mais vous vous foutez de moi là.
Madame, on n'a pas le choix, c'est obligatoire.
C'est
que l'expert qu'on part pour vous disculper.
Bon, allez, j'ai pas le temps.
Madame, ne raccrochez pas madame.
Bon, elle a raccroché.
Ah ouais,
mais c'est normal. Ouais. C'est normal. J'imagine dans le salon avec les clientes. Du coup, bah, je l'ai rappelé comme d'habitude pour lui annoncer que c'était un canular. Ouais. Bah, ouais,
elle l'a bien pris.
Bah, vous allez voir, plutôt.
Ouais. Ah oui,
plutôt.
Oui. Oui, madame, ne raccrochez pas. J'ai une confession à vous faire. C'est pas la gendarmerie.
C'est une blague ?
Oui, c'est une blague, madame.
Mais de qui ? C'est Gilles ?
Non, de moi. Vous êtes à la radio.
Alors, je me disais aussi que c'était pas normal.
Bravo, hein, vraiment, vous êtes tellement patient.
Bon, bah, merci raison. Pour sourire. Moi, je retourne à mes ciseaux et j'espère que la prochaine cliente ne va pas porter plainte. Hein.
Je vous en informerai, pas d'inquiétude. Merci beaucoup, merci pour votre humour, madame. Bonne journée.
Allez, bravo, au revoir, au revoir.
Elles sont mignonnes.
Trop gentilles. Ouais,
ah bah,
trop
je vous dis bravo quand même. Bonjour.
Mais oui, c'est ça le pire.
Ouais.
Et c'était que... dans quelle ville ?
C'était à Ris-Orangis.
Donc on l'embrasse et c'était coiffure si vous nous écoutez.
Ah bah oui, oui, on ira. Mignonne, hein. On va y aller.
On va y aller,
c'est
ouais.
Ça.
On va se faire la mèche.
Le meilleur de Sud Radio.
L'humoriste Sarah Cadour que vous retrouvez tous les lundis à 8h20 dans le Grand Matin Sud Radio. Merci à tous d'avoir été avec nous dans le meilleur de Sud Radio. On se retrouve le week-end prochain. Et vous le savez, pour écouter l'émission, il suffit de vous rendre directement sur notre site sudradio.fr. Rubrique podcast. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Nathalie Schrein-Guirma pour C'est ça la France. Avant Invino avec Alain Marty. Passez un excellent week-end à l'écoute de Sud Radio.